C'est notre dernier volet de ce merveilleux livre. Lorsque vous avez suivi ces messages, vous avez pu vous rendre compte à quel point ce livre de Ruth contient un message prophétique très fort, extraordinaire, et finalement est un message tout à fait merveilleux, résumé en 4 chapitres seulement, entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Et le livre des Juges, comme vous le savez, est un livre où Israël est tantôt en haut, tantôt en bas, où finalement nous voyons plus de défaites que de victoires. Et ce livre de Ruth, là, est comme un joyau, comme un diamant qui sort, comme quelque chose de tellement beau, tellement gracieux par rapport à ce que nous avons l'habitude de lire dans les guerres d'Israël, dans les combats. Là, nous voyons quelque chose qui nous met dans une toute autre dimension. Nous voyons Ruth glaner sur les champs de Bethléem. Nous voyons une histoire familiale qui commence tellement mal et qui se termine tellement bien. C'est extraordinaire. Nous avons donc, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, très brièvement. Nous avons donc trouvé Naomi, qui était, comme vous le savez, devenue veuve. Elle a perdu ses deux fils aussi. Elle est complètement en bas. Et elle se lève pour rentrer à Bethléem. Elle se lève pour retourner là où est sa place véritable. Et puis, elle ne revient pas seule. Elle revient sans même se rendre compte au départ. Mais elle revient avec un grand cadeau à ses côtés. Est-ce que vous avez réalisé que parfois, vous avez des cadeaux à vos côtés qu'on n'est même pas conscient de la valeur de ces cadeaux? Est-ce que l'amitié, parce que Ruth veut dire ami, est-ce que l'amitié est un cadeau précieux pour vous? Est-ce que l'amitié compte? Est-ce que vous investissez de l'amitié? Est-ce que vous laissez les amis vous bénir, prendre de vos nouvelles? Ou est-ce que vous prenez soin de vos amis? Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous remerciez Dieu? Est-ce que vous les remerciez d'avoir de l'amitié pour vous? Et Ruth, donc, va démarrer son périple. Au lieu de rester et de refaire sa vie à Moab, eh bien, elle va suivre Naomi. Et en la suivant, tout au départ, il se passe quelque chose de fondamental que nous avons souligné à plusieurs reprises. Elle va faire un vœu. Elle va faire une promesse. Et vous la trouvez au chapitre 1, verset 16. Elle va dire, Naomi, belle maman, je te suivrai. Là où tu demeures, je demeure. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc là, elle va réellement prendre une décision radicale de changer de pays, mais de changer de Dieu surtout. Elle va quitter la divinité terrible de Moab, elle va se soumettre, elle va prendre comme refuge le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Et Boaz va lui dire à un moment donné, mais tu es venu te réfugier sous l'aile du Tout-Puissant. Et ce vœu, cette alliance, cette promesse qu'elle fait, va enclencher une série de bénédictions. J'ai souligné ça très fortement les autres fois. Lorsque vous vous engagez avec Dieu d'une manière aussi claire, aussi forte, aussi précise que Ruth, qui ne connaissait encore pas grand-chose, parce que quel était le témoignage qu'elle a entendu de la famille d'Élimélec en Moab? Peut-être un témoignage très pauvre et faible, nous ne savons pas. Toujours est-il que son autre belle-sœur, Orpa, est restée. Elle est restée sous les divinités de Moab, tandis que Ruth, elle a saisi la grâce, elle a saisi le changement, et elle s'est engagée par cette promesse à suivre clairement et définitivement sa belle-mère Naomi. Et donc les bénédictions vont s'enclencher les unes derrière les autres, parce qu'en s'attachant avec cette promesse, par cette promesse à Naomi, elle va aussi quelque part épouser sa pauvreté totale. Elle va rentrer à Bethléem, qui n'est pas son pays, qui ne parle pas sa langue. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de métier, elle n'est rien du tout, elle n'a aucun héritage. Elle part au point zéro, sans même savoir comment à Bethléem on va l'accueillir. Parce qu'elle est moabite, ne l'oublions pas, et que Israël ne devait rien avoir à faire avec les moabites. Par bonheur, les choses vont s'enclencher. Dieu sera là. Elle va être accueillie avec sa belle-mère. Et elle va commencer à glaner dans les champs par hasard. Et comme je l'ai dit, le hasard était signé avec un D majuscule à la fin. Dieu était derrière ce hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que la direction divine. Et donc elle va glaner juste sur le bon champ. Elle est juste sur le bon terrain. Vous savez, lorsque vous suivez la volonté de Dieu, lorsque vous faites sa volonté, vous allez vous retrouver rapidement sur le bon terrain. Ruth n'a pas été tout de suite la femme qui a tout réussi, qui a tout reçu. Elle est restée un certain temps glaneuse. Et la Bible relève cette noblesse de caractère. Elle avait ce caractère de la femme vertueuse de Proverbe 31. Mes chères sœurs, est-ce que vous connaissez Proverbe 31? Est-ce que votre mari vous a déjà lu le Proverbe 31? En se levant et en disant, voilà, ça, tu es ma femme vertueuse, je vais te lire ce qui est écrit sur la femme vertueuse. Ou demander à un ami ou à un ami de lire, ou lisez un petit peu, intégrer la femme vertueuse, Proverbe 31, et elle a vraiment ces caractéristiques de la femme vertueuse. Mais sa vertu, ce n'était ni la prétention, ni l'orgueil, mais elle s'est courbée toute la journée pour ramasser les épis un à un. Elle glanait, c'est-à-dire elle se contentait des derniers restes. Ce que les autres laissaient tomber, elle a pris la peine de ramasser tout cela. Et en fin de journée, elle avait un petit sac de grains pour le ramener à la maison parce que c'était sa survie et la survie de sa belle-mère. Est-ce que nous avons cette humilité de glaner dans le bon champ de la parole de Dieu, car ça c'est le bon champ pour nous tous, de glaner la parole, de glaner les perles. Vous savez, les perles de Dieu, vous ne les entendez pas toujours dans les prédications des autres. Les perles de Dieu qui vont être intégrées dans votre vie, qui vont signifier quelque chose, c'est vous qui devez les trouver. C'est vous qui devez les chercher. Et lorsque le Saint-Esprit vous donne une de ces perles, vous n'êtes pas prêt de l'oublier, tandis que si vous écoutez juste un sermon, même bien fait, vous ne retenez qu'un certain petit pourcentage et quelques jours plus tard, vous l'avez déjà peut-être oublié. C'est dommage pour les prédicateurs, mais c'est souvent comme ça. Cherchez, glanez dans le bon champ les épis de Dieu, le pain de vie, un à un, afin que vous puissiez commencer à montrer votre intérêt pour le terrain sur lequel Dieu vous place. Je suis parfois et surpris de voir le nombre de chrétiens qui ont toutes sortes de privilèges, mais qui prennent tellement à la légère l'héritage du Seigneur, le terrain de Dieu, et qui laissent traîner les perles, les épis les uns après les autres. Et en marchant dessus, il ne faut aucun cas. Frères et sœurs, soyons comme cette femme vertueuse, Ruth, qui s'est baissée toute la journée pour ramasser les épis que les autres laissaient. Et ce témoignage-là, l'homme dont on parle dans ce livre, qui va être son rédempteur, celui qui va la racheter, le propriétaire du champ, par hasard, avait déjà remarqué cette noblesse de caractère. Vous savez, si vous avez une véritable noblesse de caractère, quelqu'un vous remarquera. Avant que Ruth n'arrive et qu'elle arrive sur la terre d'Israël, elle était déjà précédée par quelque chose d'autre. Et ça aussi, nous l'avons fait remarquer. Elle était précédée par son témoignage. Car Boaz va lui dire, au chapitre 2, verset 11, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta maison natale, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. » Sa réputation l'a précédée. Savez-vous que votre réputation vous précède? Votre témoignage vous précède. Sans même dire un mot, eh bien, son témoignage avait déjà été entendu. Sa vie parlait par son vécu et par son attitude, son comportement. Notre vie parle par notre comportement, avant même que nous ayons ouvert la bouche pour parler. Donc, les grâces de Dieu s'enchaînent les unes aux autres, et le proche parent, qui est donc propriétaire de ce champ, s'appelle Boaz, qui veut dire « en lui est la force ». Car il a la force pour faire des choses nouvelles que nous allons voir. Ruth ne connaît encore rien de lui, mais lui connaît tout de Ruth. Bien sûr, l'image de celui qui a toute la force est l'image de Christ. Boaz est l'image de Christ. C'est lui qui connaît tout, c'est lui le propriétaire du champ. C'est lui qui a observé cette glaneuse, pauvre, étrangère qui est arrivée sur son champ. C'est lui qui l'a remarqué, c'est lui qui va l'encourager. Et au lieu de la laisser vraiment pauvre avec ses petits épis, il va même donner l'ordre pour qu'on lâche un peu plus d'épis, qu'elle ait un peu plus que d'habitude, et qu'elle s'en aille à la maison avec des bénédictions. Donc elle est bénie sans connaître vraiment qui est Boaz. Tandis que Boss connaît tout de lui. Le Seigneur nous bénit en tant que jeunes chrétiens, alors que nous connaissons encore si peu de lui. Il nous bénit jour après jour. Il nous donne de ses providences. Il laisse tomber des graines pour qu'on les trouve et pour qu'on ait assez à manger, pour qu'on soit content, qu'on puisse déjà partager avec ceux de notre propre maison, alors que nous connaissons encore si peu de lui. Et puis vient le thème central du livre. Lorsque Naomi a quitté Bethléem, et que en terre étrangère, son mari et ses deux fils vont mourir, il n'y aura plus d'héritier. Et en revenant en Bethléem, eh bien, elle n'avait plus rien, parce que les terres qui étaient celles de son mari étaient à quelqu'un d'autre. Ça ne lui revenait plus. Et la Bible avait prévu ce cas de figure, que lorsque quelqu'un mourait, pour ne pas que la terre soit rachetée par d'autres personnes, d'autres tribus, ou par des riches qui avaient des moyens, qui venaient d'ailleurs, pour permettre que la terre des pauvres reste propriété de la tribu et des familles, la loi de Moïse avait prévu le cas de figure dans Deutéronome 25, vous lirez ça, nous en avons parlé, je ne reviens pas là-dessus, qui autorisait aux plus proches parents de racheter ce qui avait été perdu. Fallait racheter. Donc, c'est par ce moyen-là que l'héritage restait au sein de la famille. Et l'homme qui faisait ça s'appelle le Goël, en hébreu, qui veut dire le rédempteur, celui qui rachète, celui qui récupère, celui qui retrouve, qui permet de retrouver ce qui a été perdu. C'est bien sûr l'image de Jésus, qui a toute la puissance et toute la force pour racheter ce qui a été perdu. Et si vous avez perdu le courage, la joie ou la paix, vous avez perdu peut-être des victoires, vous avez perdu des choses que vous aviez autrefois, des forces, des richesses, un témoignage, vous avez perdu des choses, eh bien en Christ vous pouvez retrouver tout cela. Christ est celui qui nous permet de retrouver ce que le diable a pris, ce que le diable a volé, ce que le péché peut-être nous a ôté. Par nos propres fautes ou par les attaques du diable, Christ récupère tout cela et il nous rachète de notre passé pour nous donner un avenir. Il est dit carrément que Christ nous rachète de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Donc même si notre héritage semble bien négatif à cause des traditions anciennes, à cause de l'héritage qui nous pèse encore sur nos épaules, qui vient pas de nous, mais de ceux qui nous ont précédés, qui sont comme rattachés par des liens invisibles, par les générations passées, Christ nous coupe de cela et nous donne un héritage nouveau. Il nous rachète, il nous libère. Il y a une frontière qui est coupée comme cela et Ruth n'est pas venue avec son héritage de Moab qui lui a pesé toute sa vie, non? Elle a été délivrée complètement pour faire partie intégrante de la bénédiction en Israël. Il nous est dit encore de l'Apocalypse, « Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. » Le Seigneur a tellement de force qu'il peut racheter quiconque. Il peut racheter des milliers de gens, des millions de gens, de toutes les tribus, de toutes les langues de la terre. Seulement, il faut le vouloir. Il faut vouloir faire comme ce que Ruth a fait. Donc, le Seigneur rachète. Mais la loi allait plus loin que le rachat des terres. En plus du droit de la terre, le Goël, le Rédempteur, devait se marier avec la veuve. Et ça, c'est justement le changement. En clair, Boaz doit prendre pour épouse Ruth la Moabite, tout en rachetant la terre. Alors il y avait ce rite spécial au chapitre 3, où Naomi va lui dire... Ruth, voilà ce que tu vas faire. Donc, nous avons lu tout cela. Tu vas maintenant, puisque tu dois être, c'est ton proche parent, c'est lui qui va te racheter, pour montrer que tu es d'accord de te soumettre pleinement à la loi d'Israël, que tu es d'accord de l'avoir pour mari, tu vas maintenant, non plus aller glaner dans les champs, mais tu vas aller te poser aux pieds de ton maître, Boaz. Eh bien, ça, c'est vraiment une image extraordinaire. Que, nous ne devons pas seulement être sur le champ du Seigneur, mais nous devons nous trouver au pied du Seigneur. Alors que Boaz est couché, il passe la nuit pour fêter la fin des moissons, il est couché près d'un tas de blé, Et elle va se venir dans la nuit, se coucher à ses pieds. Et lorsque Boaz se réveille, il va dire « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Car elle a dit auparavant, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat sur moi. » Donc, cette femme vient littéralement demander que Boaz la rachète. Boaz a le devoir de la racheter, mais elle va demander le rachat. Christ a le droit sur nous, mais nous devons aussi demander qu'il nous rachète. C'est pas seulement Christ qui fait tout, il a tout fait à la croix, il a le droit sur nous. Mais nous devons, comme Ruth, demander, rachète-moi, Seigneur. Rachète-moi, libère-moi, Seigneur. Donne-moi un avenir nouveau. C'est ce que Ruth fait. Déjà, Boaz, il l'aime. Elle ne sait pas encore, mais Boaz l'aimait déjà. Déjà, Christ nous aimait avant, depuis toujours, il nous aime. Mais il attend que nous aussi, nous puissions dire, Seigneur, étends ton aile sur moi et viens me racheter. Viens me racheter. Donc, elle est pleinement d'accord avec la loi. Elle dit oui à la soumission, à l'obéissance. Et Boaz va donc exercer son droit de rachat. Et c'est ce que la Bible appelle au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos. » Le repos, c'est l'image du mariage. C'est l'image de trouver sa place. Avoir le repos, ça veut dire être dans l'alliance avec le maître. Le repos du chrétien, frères et sœurs, c'est d'être dans l'alliance avec le Seigneur. C'est d'être dans la perspective de la communion intime et totale avec le Seigneur. C'est de faire partie de cette alliance, d'entrer dans l'alliance et de vraiment être l'épouse de Christ. Ça, c'est notre perspective. C'est cela qui procure le repos du cœur en réalité. C'est cette communion avec lui. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 2, vous étiez en ce temps-là sans privilège, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, sans espérance et sans Dieu, mais maintenant vous avez été rapproché par le sang de Christ. Voyez-vous, Ruth ne pouvait pas se racheter elle-même. Même sa nature vertueuse, même sa noblesse de caractère, même son bon témoignage, même ses œuvres ne pouvaient la racheter. C'était pas suffisant. Pour être rachetée, il fallait que le Rédempteur la prenne sous son aile et la demande en mariage, et qu'elle soit d'accord. Frères et sœurs, ce ne sont pas nos mérites qui nous donnent l'ouverture au ciel. Ce ne sont pas nos mérites qui nous procurent une entrée gratuite au ciel. Ce ne sont pas nos mérites et nos valeurs, nos vertus, même nos meilleurs efforts ne peuvent plaire à Dieu. C'est l'œuvre de Christ, notre Rédempteur, qui fait toute la différence. Exactement, ça c'est l'Évangile. Alors, il reste une situation à régler. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Il y a un obstacle au mariage. Tout semble tellement bien, clair. Tout est en place. Ruth aime Boaz, Boaz aime Ruth. Le champ, les terres vont être rachetées, elle veut se marier. Mais c'est là que nous lisons le chapitre 4. Boaz était monté à la porte et s'était assis. Or voici que celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Et moi j'ai pensé t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce pouvoir. Je ne l'ai qu'après toi. » Il répondit, « C'est moi qui rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le devoir du rachat répondit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter car je ne peux pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, on ôtait la sandale, on la donnait à l'autre, ce qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le devoir de rachat dit donc à Bose, « Fais l'acquisition pour ton compte. » Et il ôta sa sandale. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et Malon, donc les deux fils d'Elimelech, que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre les frères et de la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. » Jusque-là, je lirai la suite tout à l'heure. Eh bien, nous voyons que il y a ce problème, ce troisième personnage qui arrive et qui pose un problème. Car celui à qui appartenait le champ est mort. La seule personne par qui un héritier pouvait être suscité, c'est Ruth. Or, Ruth est Moabite. Et il est dit dans la Bible que les Moabites ne peuvent pas habiter en Israël jusqu'à la 10e génération. Donc si cet homme se liait à Ruth, il était contre la loi. Quelque part, la loi avait atteint ses limites puisque il ne pouvait racheter, en se mariant avec Ruth, la Moabite. Il fallait quelque chose de plus grand que la loi. Et c'est ici que le texte devient déjà un texte carrément du Nouveau Testament puisque la grâce dépasse la loi. La grâce est plus grande que la loi. Bose va racheter en se mariant avec Ruth. Il va dépasser cette interdiction que les Moabites puissent hériter. Ce dépassement de la loi s'appelle la grâce. La grâce va plus loin que la loi. Et Christ nous rachète des malédictions de la loi, de l'impuissance de la loi. Et l'apôtre Paul va dire au chapitre 7, justement, il va raconter exactement le cas de figure. Il dit, entre autres, « Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi, à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts. » Donc déjà prophétiquement, l'action de Bose, qui est l'image de Christ, ne l'oublions pas, l'action de Bose, c'est de ramener sur son territoire et de donner un plein pouvoir et une pleine descendance et une pleine héritage à quelqu'un qui, dans la loi, ne pouvait pas. C'est la grâce, c'est l'amour qui dépasse la loi. L'amour de Dieu englobe non seulement Israël, mais les nations aussi, même les pires. Alléluia. C'est ici que nous voyons justement la grâce de Dieu. C'est que, en accueillant Ruth, en y en l'aimant, l'amour de Bose vraiment représente l'amour de Dieu qui donne un statut, une position, une situation, un relèvement à la personne qui n'avait rien. Sans Christ, nous n'avons rien, mais en Christ, nous avons tout. Hors de Bose, nous restons pauvres et nous sommes étrangers. Mais en étant mariés à Bose, nous retrouvons les terres perdues et nous retrouvons l'alliance tant désirée. Et la suite du texte, nous la lirons tout à l'heure pour la conclusion. Il y aura une descendance et pas n'importe laquelle. Bose est vraiment l'image du Christ, cet autre mari. Voyez-vous, on voit dans cet homme qui apparaît ici, un homme qui n'a pas d'amour. Parce qu'en fait, il a peur de perdre, mais l'amour ne parle pas comme ça. L'amour dit, je perds tout, ok, mais je gagne tout parce que j'aime. J'aime. Je suis engagé, c'est bien. Mais l'amour gagne, l'amour est toujours gagnant, même si les gens disent, tu perds. Mais l'amour sait qu'on gagne. L'amour est toujours gagnant. Celui qui aime est plus grand que celui qui a juste les lois. Cet homme disait, si je prends Ruth, mon héritage personnel va partir avec la descendance, donc je vais perdre. Alors dans son calcul, il ne se marie pas. Bose dit, même si je perds tout, je gagne tout en Ruth et sa descendance prendra nos héritages à tous les deux et on sera finalement ceux qui bénissent l'héritage qui va plus loin. Ça, c'est l'amour qui parle. L'amour du Seigneur, c'est d'avoir tout donné, d'avoir tout perdu, de renoncer à tout pour gagner tout. Il vous a gagné, il m'a gagné. Il gagne des gens jour après jour, il est gagnant. Le Seigneur, à la croix du calvaire, paraissait être un perdant total. Mais en réalité, il était gagnant sur tout. Il a gagné, il a racheté par son sang des hommes par milliers, par millions. Et sa maison se remplit, le ciel se remplit de tous ces épis qui sont glanés, de toute cette moisson d'âmes qui lui appartient. C'est extraordinaire. L'amour est gagnant. Et regardez encore ce qui est dit, et je vais terminer après. Au verset 11, le peuple, donc les gens de Bethléem, sont tellement saisis par cette grâce qui dépasse la loi, cette grâce qui gagne, qui enthousiasme tout Bethléem. Et les gens disent, mais non seulement ils sont sans voix, mais ils disent carrément, mais Ruth, ce n'est plus la Moabite qui est étrangère et qui n'a aucun droit de venir en Israël, mais que Ruth soit honorée d'un statut spécial, que ce soit elle qui bâtisse Israël. Est-ce que vous sentez jusqu'où ça va? Qu'elle bâtisse Israël comme nos ancêtres, Léa et Rachel, ont bâti Israël. Les femmes des patriarches avaient construit les bases, les fondements d'Israël. Eh bien, que Ruth ait le même privilège. C'est ça qu'on lui souhaite. Et Dieu a entendu cette parole inspirée. Et Ruth va devenir le successeur dans la droite lignée messianique. Alléluia. Parce que comme nous avons dit dans la généalogie du Messie, dans Matthieu chapitre 1, nous voyons ces femmes qui sont intégrées dans la ligne messianique. Et toutes ces femmes qui sont mentionnées sont des femmes qui étaient récupérées par la grâce de Dieu. Il y avait Rahab, la mère de Boaz, c'est Rahab de Jéricho, une prostituée. Elle a été intégrée dans le peuple d'Israël. Elle a accepté Israël et est devenue dans la ligne messianique. Ensuite, maintenant, il y a Ruth et il y aura encore d'autres personnes. Eh bien, le Seigneur bâtit la maison de Dieu avec ceux qui reçoivent l'héritage en Christ, qui se mettent dans l'alliance avec le Christ. Vous avez droit à l'héritage. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons l'héritage. Nous avons l'amour. Nous avons l'alliance. Nous avons un avenir. Et le Seigneur bâtit sa maison avec des gens comme cela. Oui, de pauvre glaneuse, elle devient maintenant l'épouse qui a pleinement tous les droits. Elle va devenir celle qui va bâtir la maison d'Israël. Ruth était stérile lorsqu'elle était mariée à Malkon. Malkon veut dire faiblesse. C'était son premier mari. Boaz, son deuxième mari, veut dire force. Elle est passée de faiblesse à force. Elle est passée de stérilité à fertilité. Car elle va donner naissance, comme il est dit. Boaz prit Ruth pour femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. » Et regardez encore cela. Une perle, encore une glanure extraordinaire. Les gens de Bethléem voient bien sûr que Boaz est le rédempteur, celui qui a tout racheté, qui a permis de ramener tout ça dans la bonne direction. Mais ils appellent aussi le fils de Boaz rédempteur. Prophétiquement, ils voient déjà le rédempteur avec un R majuscule. Le fils de Dieu, le rédempteur, celui qui va racheter le monde par son sang et son œuvre et son sacrifice. Donc le fils, la descendance de Ruth, amènera le rédempteur. Alors qu'en réalité, c'est Boaz qui est le rédempteur. C'est merveilleux. En tout cas, ça me passionne. Elle est vraiment bénie. Obed, c'est le nom du fils, et je termine par là, veut dire serviteur. Le rédempteur s'appelle serviteur. Notre rédempteur, c'est celui qui est venu pour servir. Il vient ce soir pour vous servir, il vient pour vous bénir. Il vient pour vous servir, pour vous toucher, pour vous aider, pour vous relever, pour vous redonner, pour l'ouvrir les yeux, afin de voir ce que vous n'avez pas encore vu. Et il nous est dit qu'à la fin, eh bien, la descendance, les voisines lui donnent le nom en disant « le fils est né à Naomi ». Parce que maintenant, on ne parle plus de Ruth, mais on parle de Naomi. Ça veut dire aussi que Naomi est restaurée complètement. Elle qui était veuve, ses fils étaient morts. Elle retrouve un fils et les gens disent « mais maintenant, ce fils-là, c'est pas le tien, mais c'est celui de Ruth, ta belle-fille. Mais ce fils-là représente tout pour toi. Et c'est comme si tu avais tout récupéré maintenant pleinement. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Donc Obed, c'est vraiment le grand-père du roi David. Donc voilà, nous avons maintenant bouclé la boucle. Nous avons maintenant terminé ce livre merveilleux. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il vous a inspiré. J'espère qu'il vous a ouvert les yeux sur le plan merveilleux de Dieu que nous trouvons dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu, c'est pas que le Nouveau Testament, c'est aussi l'Ancien Testament. Les images prophétiques que nous avons à travers de Ruth, Naomi, Boaz, eh bien, sont des images qui nous parlent aujourd'hui. Ruth, c'est l'image du chrétien qui découvre Christ. Boaz, c'est Christ. Naomi, c'est les chrétiens qui a tout perdu et qui retrouve tout. Eh bien, j'espère que vous avez suffisamment de glanure dans votre sac aujourd'hui pour repartir encouragé de cette soirée. Amen.